France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
L'âge du bronze, c'est une époque qui dure un millénaire et demi entre 2300 et 800 avant notre ère. S'il est très mal connu du grand public, c'est parce qu'il se retrouve coincé entre deux périodes très célèbres et même iconiques. D'abord le néolithique, avec ses premiers agriculteurs, et ensuite l'âge du fer, avec ses fiers guerriers gaulois.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Puisque l'histoire est un long fleuve de sang, il peut paraître évident que la guerre appartient depuis toujours à la chronique de l'humanité. Et il faut bien dire que l'actualité n'est pas faite pour démentir ce sentiment. On ne peut que s'en trouver plus attentif à une affirmation contraire lorsqu'elle est apportée par l'une des plus éminentes autorités actuelles dans le champ de la préhistoire. Anne Loerff, ancienne membre de l'École française de Rome et professeure à Cergy Paris Université. Elle a publié, voici quelques années, un ouvrage dont le titre est véritablement saisissant. « Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre ». Nos ancêtres, si on la suit, auraient inventé à un moment donné que notre autrice situe en Occident lors de l'âge du bronze, entre 2300 et 800 avant notre ère, après le néolithique et avant l'âge du fer, aurait inventé une nouvelle forme de conflit. Anne Loerff ne nie pas, bien sûr, la présence antérieure de la violence, qu'elle soit individuelle ou de groupe, qui est intrinsèque à notre espèce. Elle parle de la guerre comme un fait social total, une activité isolée et définissable en tant que telle, impliquant l'existence de sociétés structurées et hiérarchisées, mobilisant tout un pan d'elles-mêmes. Il s'agit, pour ces sociétés, d'assurer un énorme investissement dédié à la réalisation des armes, investissement qui devient un ressort puissant pour les inventions techniques et notamment métallurgiques. Le moindre intérêt de la thèse d'Anne Loerff n'est pas qu'elle en relie la genèse à l'histoire de la science archéologique en Occident depuis le XVIIe siècle, une science profondément marquée par l'évolution de la pensée philosophique. Cette démonstration n'a pas été sans susciter, vous le pensez bien, dans le monde scientifique, diverses controverses. Eh bien, nous allons voir si elle nous en convainc.
Une équipe d'experts s'enfonce dans une vallée reculée du nord de l'Allemagne. Ils vont enquêter sur une tuerie qui s'est produite au bord d'une rivière paisible.
La majorité des ossements retrouvés à ce jour appartiennent à des hommes d'environ 25 ans.
Des centaines d'individus sont tombés ici, peut-être en une seule journée.
Différentes armes ont été utilisées pour tuer ces personnes.
Des armes tranchantes, des armes contondantes, des poignards, des couteaux.
Nous avons des crânes perforés, des trous béants.
Après des années d'investigation, un grand nombre de victimes n'ont pas été retrouvées.
Chaque année, on met au jour de nouveaux ossements.
Ça équivaut à une scène de crime. On travaille comme des policiers.
Sauf qu'il ne s'agit pas d'une enquête de police.
On exhume les preuves et on essaie de comprendre ce qui s'est passé.
Ce massacre a eu lieu à l'âge du bronze, il y a plus de 3000 ans. Des vestiges remarquablement conservés nous donnent un aperçu exceptionnel de ce qu'était la guerre à cette époque lointaine et chamboulent notre vision des combats dans l'Antiquité. Les traces d'une large structure construite 5 siècles avant la bataille donnent à penser que cette vallée était une importante voie commerciale.
Les habitants de la région avaient des échanges commerciaux de longue distance. Ils avaient accès à ces marchandises.
Ces nouveaux éléments suggèrent un niveau d'interaction jusqu'alors insoupçonné entre cette région reculée et les grandes civilisations méditerranéennes de l'âge du bronze.
Le site de Tolens bouleverse notre conception de l'histoire de l'âge du bronze.
Anne Loerf, bonjour.
Bonjour Jean-Noël Jeannet.
Je vous ai proposé un extrait d'un documentaire télévisé qui s'appelait « Le premier champ de bataille d'Europe », un documentaire de David Starkey qui avait été diffusé sur Arte en 2024 et qui concerne un site qui paraît rudement intéressant en Allemagne du Nord, Tollensee.
Alors oui, c'est un site de bataille. C'est en fait le premier et le seul pour l'instant pour l'âge du bronze de cette ampleur, qui est celui d'une bataille à l'âge du bronze, visiblement d'une ampleur sans précédent. Et ça fait partie un petit peu de la magie de l'archéologie. Jusque-là, on n'avait aucun site de bataille.
Vous allez nous offrir une émission magique, je m'en réjouis.
Merci.
Donc c'est extraordinaire, pourquoi ?
Le site de Tollensee est extraordinaire parce que on a un instantané d'un moment de bataille, qui est une échelle d'analyse de l'archéologie que l'on a assez peu. L'archéologie permet d'avoir parfois un instantané, ou plutôt de suivre des événements sur la moyenne durée. Là, on a l'impression d'avoir un moment du temps qui est figé, avec des armes, avec des morts qui sont restés sur le champ de bataille. Et on n'imaginait pas, jusqu'à la découverte de ce site, pouvoir bénéficier d'une telle documentation pour effectivement pouvoir étudier et peut-être mieux comprendre la guerre à l'âge du bronze.
Il n'y avait pas d'équivalent.
On n'avait aucun équivalent jusqu'à présent.
C'est intéressant aussi pour désigner, pour démontrer l'importance de cette vallée dans la diversité des échanges commerciaux. C'est aussi un aspect de cette archive qui m'a paru éclairant.
Oui, l'archive mentionne le fait qu'on a... Alors, on parle d'une vallée reculée. Les archéologues d'aujourd'hui voient l'Europe, et même au-delà, comme un espace en fait d'échanges extrêmement nombreux. Alors, les échanges n'apparaissent pas avec l'âge du bronze. Ils existent au néolithique. Mais l'âge du bronze est caractérisé par une intensification très forte de ces échanges, et en particulier des échanges nécessaires pour la métallurgie complexe qui se développe à ce moment-là, la métallurgie des alliages cuivreux.
Alors vous nous montrez que cet événement, cette découverte, a marqué un moment nouveau dans l'archéologie, mais j'ai eu grand intérêt en lisant votre livre que j'ai cité, et aussi le Que sais-je, ramassé, que vous venez de publier, à comprendre avec vous pourquoi, pendant si longtemps, la guerre a été occultée sous le regard des archéologues. Je rappelle que l'âge du bronze, qui arrive après le néolithique, dure à peu près en Occident de 2300 à 800, avant l'âge du fer, 800 jusqu'à moins 50.
À peu près, oui. Alors ça, ce sont les dates de l'Occident, mais effectivement, c'est à peu près 1500 ans pour l'Europe occidentale, cet âge du bronze.
Alors comment expliquer que pendant si longtemps, on se soit trompé, on peut le dire. En tout cas, on n'est pas vu que la guerre avait pris une forme si nouvelle dans cette période spécifique de l'histoire de l'humanité.
Alors, c'est une combinaison, je pense, de facteurs différents. Il faut déjà... Alors, c'est pas parce qu'on a des objets qu'on arrive à les forcément d'abord les dater, à les comprendre. On a vu la préhistoire comme un temps très reculé qu'il a fallu tout simplement inventer et arriver à dater.
Le mot est assez récent, préhistoire, 1867.
1867, une décision des savants réunis à Paris à l'exposition universelle et qui ont, après diverses hésitations de vocabulaire, tranché et se sont donc arrêtés sur le terme de préhistoire.
Pendant très longtemps, on a recherché des œuvres d'art, on a recherché la beauté, on a énumérer des trouvailles différentes avant de lier cela au service de ce qui est finalement une part de l'histoire. Vous permettez de vous annexer à notre histoire, si vous le voulez bien, la préhistoire, préhistorienne que vous êtes.
La préhistoire, c'est l'histoire. Nous sommes tout à fait d'accord. Et oui, lorsqu'on a commencé à sortir finalement de terre, et ça, on peut le faire remonter plutôt à la Renaissance, aux antiquaires, qui collectionnaient effectivement des objets du passé, plutôt des objets qui étaient connus, ou alors inconnu et qui interrogeait et qu'on mettait dans un coin et sur lequel on essayait de mettre des noms qu'on n'a pas forcément gardés. Et puis, en fait, le 19e siècle invente une archéologie qui est une archéologie qui va relier les objets avec le lieu où on les découvre et finalement mettre en place la fouille archéologique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, on va exhumer des vestiges, on va allonger le temps aussi en inventant la préhistoire, puisque jusque-là, on est en Europe avec un calendrier qui est celui, finalement, de la Bible. Le début de l'humanité est vers moins 4000.
Donc il est scandaleux de penser qu'il existait quelque chose avant Adam.
Absolument. Et donc la préhistoire va un petit peu bousculer. Et donc là, on est au début du 19e siècle.
Un personnage intéressant, Jacques Boucher de Perthes.
Jacques Boucher de Perthes de Crèvecœur, qui est douanier dans la Somme.
Ah, j'avais oublié qu'on ajoutait Crèvecœur, ça vous gêne?
Non. non, et donc Jacques Boucher de Perthes de Crèvecœur va effectivement regarder finalement le sol comme un livre et comme un empilement de couches, et dans ces couches archéologiques il établit le fait qu'il y a des traces humaines antérieures à des espèces animales qui ont disparu, et donc l'idée de l'antédiluvien se fait jour.
Et avant donc, le déluge.
Avant le déluge. Et donc, le temps s'allonge. Antédiluvien est quand même très connecté précisément avec la Bible, d'où la recherche d'un autre nom, et celui de préhistoire s'impose.
Plus largement, à l'OERF, comment expliquer cette sorte d'occultation du problème que vous avez avec quelques autres, mais particulièrement mis en lumière, le problème de la violence et surtout de la guerre à ce moment-là? Pourquoi a-t-on attendu si longtemps? Comment l'expliquer?
Longtemps, la guerre a été traitée par des acteurs de la guerre, c'est-à-dire les militaires. Ils ont un petit peu trusté le sujet en tant que tel. Et donc, en fait, dans une archéologie qui s'enrichissait d'un certain nombre de données, la guerre en tant que telle n'a pas été, dans un premier temps, effectivement, portée comme un sujet à part entière. Les sociétés de la préhistoire pouvaient être vues soit de manière violente, soit de manière pacifique, mais pas liées à la thématique guerre en tant que telle.
Comme produit d'une société organisée.
Comme produit d'une société organisée. Et donc, en fait, on sortait des objets, dont des épées, dont des casques, comme ceux de Bernière d'Ailly en 1832. Donc on savait que c'était des armes, mais on ne les datait pas forcément très bien. Et ça ne percutait pas une thématique qui pouvait être celle de la guerre. Et donc il a fallu attendre que l'archéologie évolue au cours du XXe siècle. Et peut-être aussi que la société elle-même s'empare de la thématique sur la guerre de manière différente pour que ça intègre, en fait, les sujets traités par les anthropologues d'abord, puis les archéologues. Et véritablement, pour les temps anciens, la guerre est un sujet traité simplement à partir de la fin des années 90. D'abord par les anglo-saxons, puis aujourd'hui de manière très largement partagée entre les archéologues, les anthropologues et ceux de toutes les périodes.
On peut penser que c'est aussi l'effet de notre XXe siècle si sanglant.
Oui, je pense que il est certain que la génération après la Seconde Guerre mondiale a mis à distance cette thématique de la guerre après l'horreur de la Seconde Guerre mondiale et le poids très lourd des conflits du XXe siècle. Et je me souviens d'avoir lu un passage de Jean-Pierre Vernant, qui pourtant lui-même était résistant.
Le grand Jean-Pierre Vernant.
Le grand Jean-Pierre Vernant, et qui, racontant un petit peu ses mémoires et reliant son propre sujet d'étude, dans lequel le héros guerrier a une place, faisait cette réflexion en disant « Mais oui, c'est vrai que finalement, moi-même, j'ai mis à distance la guerre. » Et je n'ai pas vu que mon sujet, finalement, recoupait ce sujet-là, alors qu'il faut effectivement l'aborder.
Vous évoquez les ethnologues. Certains ont joué un rôle positif pour ouvrir la curiosité dans cette direction. Je pense à Pierre Clastres, qui mérite d'être cité.
Oui, Pierre Clastres a écrit un texte sur la guerre dans les années 1970, mais à l'époque, finalement, le texte a été assez peu lu. Aujourd'hui, c'est redevenu un classique.
Il est mort prématurément et il a aujourd'hui, rétrospectivement, une place importante.
Absolument, sur ses études et en particulier par les anthropologues. Parce que son texte concerne plus particulièrement une analyse des conflits intergroupes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs-collecteurs.
Pour expliquer cette longue occultation du thème de la guerre, on doit aussi probablement réfléchir à l'arrière-plan philosophique des choses, notamment au XVIIe, XVIIIe siècle, on a souvent, vous l'évoquez d'ailleurs dans vos ouvrages, on a souvent opposé deux grandes tendances, peut-être caricature-t-on un peu ces deux tendances, mais enfin, qui s'incarne chez Hobbes au XVIIe siècle et chez Rousseau. D'un côté, l'idée que l'homme est un loup pour l'homme depuis toujours, et la violence fait partie en quelque sorte de son histoire, et celle de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, pour qui il y aurait eu un âge d'or que les hommes auraient progressivement abîmé.
Oui, ce sont deux textes fondamentaux et évidemment, ils sont incontournables. Aujourd'hui, néanmoins, on se dit, voilà, ce sont deux extrêmes, deux oppositions presque binaires, et il faut probablement envisager ces questions autour de la guerre, des conflits, avec plus de nuances. Et une pluralité de points de vue un petit peu différente. Aujourd'hui, on peut considérer que cet affrontement binaire et réducteur est assez stérile. Et pour ce qui est de l'âge du bronze, on a quand même aussi quelques particularités. Alors, il y a un piège général qui me semble important quand même de rappeler, c'est que la question des origines, le premier jour de... que Marc Bloch dénonçait avec grande sagesse, comporte quelques pièges et ça peut être une quête assez vaine, voire dangereuse, avec une idéologie qui détourne la science. Donc ça, c'est quand même embêtant. Au service d'une idéologie, pour dire on était là les premiers, on est là, c'est là qu'il y a les plus vieux, et au nom de ça, voilà. Donc ça paraît problématique. Et puis l'utilisation du comparatisme ethnologique est un outil intéressant. Mais pour l'âge du bronze, il y a un obstacle, contrairement au néolithique et au paléolithique des sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est qu'on n'a aucune société aujourd'hui que l'on peut voir en action, parce que toutes les sociétés bronzières de l'âge du bronze ont toutes totalement disparu. Donc on ne peut rien comparer, contrairement au néolithique et aux chasseurs-cueilleurs. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans les méthodologies d'enquête que nous avons.
On retrouve notre mantra d'historien, c'est plus compliqué que vous ne le croyez.
Exactement.
Il n'empêche que je vais vous faire entendre ce très fameux extrait du discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, 1755, Jean-Jacques Rousseau.
Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » C'est ainsi que l'égalité rompue fut suivie du plus affreux désordre. Il s'élevait entre le droit du plus fort et le droit du premier occupant un conflit perpétuel qui ne se terminait que par des combats et des meurtres. La société naissante fit place au plus horrible état de guerre. Le genre humain avili et désolé se mit lui-même à la veille de sa ruine.
C'est un extrait de La tête au carré de Mathieu Vidard sur France Inter le 24 mai 2018. Jean-Jacques Rousseau.
Qui nous invite finalement à regarder un petit peu du côté du néolithique dans ce passage, puisque le néolithique va correspondre effectivement au développement des sociétés agricoles.
Du 7e au 3e millénaire avant notre ère.
Pour l'Occident, tout à fait. Plus ancien en Proche-Orient.
Vous parliez aussi du rôle des militaires.
Alors, les militaires ont effectivement été très importants dans le champ de la guerre. Et au XIXe siècle, il y a un moment donné où ils ont même un rôle dans les fouilles archéologiques. Napoléon III promeut des fouilles sur le terrain en mobilisant les militaires, à Alésia en particulier, recherchant les traces des derniers combats entre Vercingétorix et Jules César. Et c'est un petit peu la période ou le point sur lequel la guerre entre en archéologie dès le XIXe siècle. C'est vraiment sur les Gaulois, les Celtes, où là, on a à la fois une recherche archéologique, mais on en a évidemment la trace dans les sources textuelles antiques, ce qui n'est pas le cas pour les périodes précédentes.
La guerre des Gaules de César, par exemple.
La guerre des Gaules de César.
Et vous montrez bien qu'il y a une sorte de glissement temporel, puisque on annexe à la période celtique des armements, des comportements qui, en fait, selon vous, remontent plus loin en arrière dans votre cher âge du bronze.
En fait, le guerrier celtique va effectivement endosser une panoplie guerrière qui est celle de l'âge du bronze, pour des raisons qui tiennent en fait à la recherche elle-même, c'est-à-dire que les découvertes de ces armes de l'âge du bronze sont assez mal datées. Bernière d'Ailly, on a 9 casques qui sont découverts en 1832. L'âge du bronze n'existe pas encore. Et donc, qu'est-ce qu'on connaît de plus ancien ? Eh bien, on connaît les Gaulois. Et donc, ben, ils vont être mis sur Vercingétorix, ces casques. C'est le fameux casque que l'on voit partout et dont la dernière trace est finalement le casque sur la tête d'Astérix dans les albums d'Astérix.
Qui renvoie au petit Lavis, effectivement. Et on voit au moment où Vercingétorix lance son épée au pied de César.
Tout à fait. Donc ça, c'est un tableau de Lionel Royer de 1899 qui représente Vercingétorix qui a une cuirasse de l'âge du bronze, qui avec des casques de l'âge du bronze qui sont à ses pieds, qui jette une épée dans un tableau qui est totalement anachronique, mais qui a eu un succès absolument incroyable, puisqu'il a ensuite été repris dans les manuels, sur les tablettes de chocolat. Le casque a été repris sur les cigarettes, les gauloises. Et donc voilà, il y a eu un grand succès de ce casque de l'âge du bronze. C'est la même chose pour les cuirasses. Et on a ces anachronismes. Et dans un cadre d'une histoire de l'âge du bronze en France, qui est assez compliqué, parce que le terme lui-même et la reconnaissance de la période a été un petit peu complexe. C'est une terminologie qui remonte à 1836 et que l'on voit en Scandinavie avec le premier directeur du musée de Copenhague, Christian Jørgensen Thomsen, qui, puisant dans des textes antiques sur les âges et les époques de l'humanité, propose de diviser les temps en âge de la pierre, âge du bronze, âge du fer. Et en France, cet âge du bronze va mettre plusieurs décennies à s'imposer avant d'être effectivement, finalement, accepté au terme d'une querelle, j'allais dire sanglante, entre Alexandre Bertrand, premier directeur du Musée d'archéologie nationale, et Gabriel de Mortillet, deux hommes avec deux personnalités, deux parcours, et une difficulté, un affrontement intellectuel tout à fait passionnant.
C'était le temps où il y avait des affrontements sanglants à l'intérieur du milieu des préhistoriens, c'est ça ?
Ça n'existe c'est plus, une... je vous rassure.
Merci de me rassurer. La place est laissée aussi par cette absence d'intérêt pendant longtemps pour la guerre à l'âge du bronze, même quand celui-ci a été défini. La place est laissée aux romanciers, à l'imagination. Et on ne peut pas faire l'économie d'une évocation du fameux ouvrage de Joseph-Henri Rony, aîné, 1909, « La guerre du feu ». Écoutez donc cet extrait qui est lu ici par Olivier Martineau dans le cours de l'histoire de Xavier Mauduit sur France Culture le 7 septembre 2020. Et vous allez nous dire si cette vision de l'époque garde non seulement de la fraîcheur, mais quelques véracités, ou si vraiment l'absence d'intervention à l'époque des archéologues dans ce champ a permis tous les dévergondages de l'imagination.
Parmi les saules et les palétuviers, on vit surgir une trentaine d'hommes et de femmes, aux têtes longues, aux torses ronds et singulièrement étroits. Un combat avait commencé. Cernés, les hommes sans épaules lançaient des sagaies, non pas directement, mais à l'aide d'un objet que les oulams n'avaient jamais vu. C'était une baguette épaisse, de bois ou de corne, terminée par un crochet. Et ce propulseur donnait aux sagaies une portée beaucoup plus grande que lorsqu'on les jetait à la main. Les visages triangulaires surgissaient de toutes parts. Ils couraient, droit à la mêlée, avec de longs hurlements. Toute la prudence qu'ils avaient montrée devant les oulams avait disparu. Peut-être parce qu'ils ne craignaient pas le corps à corps. Peut-être aussi parce qu'une haine ancienne les surexcitait. Ce fut rapide et farouche. Nao lança sa sagaie et son harpon, puis bondit en faisant tournoyer la massue. La panique arracha quelques nains rouges au champ de bataille. Mais sur les ordres du chef, tous se rallièrent en une seule masse, hérissée des pieux. Il y eut une sorte de trêve.
Alors, Anne Leherf, cette vision par Rony qui a été si populaire parmi des générations de lecteurs, est-elle complètement absurde ? On voit des sagaies, des massues, des armes de toutes sortes.
Rony a effectivement connu un grand succès. On peut d'ailleurs toujours acheter, hein, le livre de Rony en librairie. oui, la vision de Ronnie, en fait, c'est intéressant. On a besoin du récit, en fait, hein, et de la mise en récit. Et c'est pour ça que le livre a connu un tel succès. On a besoin de se raconter des histoires. Après, le contenu du livre de Ronnie mélange en fait des périodes. Et donc, il est totalement anachronique. Et les préhistoriens ne retiennent évidemment pas le contenu. Mais le texte est effectivement renvoie à toute cette nécessité du récit, à cette nécessité de la mise en image, à un moment où les préhistoriens s'évertuent à créer leur science et ont beaucoup de difficultés à oser finalement raconter des histoires.
Vous montrez bien d'ailleurs que l'archéologie commence son enquête souvent par les données les plus matérielles. Et vous citez Lucrèce, le fameux De Natura Rerum, qui disait « les premières armes furent les mains, les ongles, les dents et aussi des pierres ». Vous citez ce texte dans votre « Que sais-je sur l'âge du bronze ». Des fragments d'arbres, des branches, puis, quand on eut connu la flamme, le feu, toujours Ronnie, on trouva bientôt le fer et le cuivre. Alors parlons de ces armements, parlons de tout ce qui a été l'instrument de la guerre. Et au centre, pour vous, c'est évidemment l'épée. Parlez-nous de l'épée. L'épée précisément en bronze.
L'âge du bronze est caractérisé par le développement de cette métallurgie complexe, du cuivre dans lequel on va ajouter de l'étain, du plomb, où on va mettre du cuivre avec de l'arsenic, enfin, un alliage qui est volontaire. Et ces alliages qui sont variés, il n'y a pas d'alliage standard, on va choisir le mélange que l'on fait dans le creuset, puis qu'on travaille ensuite, en fonction de ce que l'on veut travailler.
La Vulgate, c'est souvent qu'il y aurait pour faire le bronze 90% de cuivre et 10% d'étain, ce qui vous paraît controuvé.
Non, mais alors, en fait, c'est une contre-vérité, c'est une erreur. Tout l'intérêt, toute la force des alliages cuivreux, c'est que précisément, c'est l'artisan qui va choisir l'alliage, qui peut être binaire, cuivre-étain, qui peut être ternaire, ou plus même, en fonction de ce qu'il veut obtenir. Le résultat, c'est pour ça que je fais souvent une analogie entre, finalement, le travail du bronzier et le travail en cuisine, de la préparation d'un ragoût, d'une sauce. On sait ce qu'on veut obtenir à la fin et on mélange un certain nombre d'ingrédients en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Chez le bronzier, c'est un petit peu pareil. Donc, il n'y a pas de standard. On peut mettre un bronze à 6%, à 12%, à 15% d'étain. Ça ne va pas être le même mélange, la chaîne opératoire de travail ne va pas être la même et le résultat ne va pas être le même.
C'est une façon de souligner la grande technicité des artisans de l'époque telle qu'on peut l'apercevoir.
Oui, c'est une réalité quand on est spécialiste de ces questions, quand on est archéométallurgiste, qu'on regarde de près le travail des artisans, c'est très impressionnant de voir effectivement leur expertise, la réalité de leur pratique dans l'atelier. Et quand je travaille avec un artisan bronzier et lui-même est impressionné, et parfois il a même aussi lui des difficultés à obtenir des résultats qui soient équivalents à ce que ses très lointains ancêtres obtenaient dans leurs propres ateliers. Donc le niveau de réalisation est assez impressionnant, effectivement, pour les experts, avec une réalité qui est, nous voyons finalement ce qui a fonctionné. Il faut imaginer que ces inventions ont pris du temps, c'est pas du jour au lendemain, qu'il y a eu des essais, qu'il y a eu des ratés, et que les extraordinaires épées que nous voyons naître en Europe entre 1700 et 1600 ont été précédés d'essais plus ou moins fructueux.
On en trouve des milliers dans les foules ?
On en trouve des milliers aujourd'hui à l'échelle européenne. Alors, dans les fouilles archéologiques et dans des contextes qui peuvent être assez variés, c'est-à-dire que on en a dans des tombes, qui est un contexte archéologique, on va dire, relativement classique. Et puis, on en a dans ces ensembles archéologiques tout à fait caractéristiques de l'âge du bronze, que l'on appelle les dépôts métalliques, et qui sont connus, effectivement, à l'échelle européenne, eux aussi par milliers, et dans lesquels on a des objets entiers ou des objets qui sont fragmentés, qu'on a longtemps interprétés comme étant des espèces de bric-à-brac aléatoires. Et aujourd'hui, en les étudiant de manière plus fine, on s'aperçoit qu'en fait, bah, les morceaux qui sont déposés ont des tailles identiques, ont des masses identiques. Et donc, il y a une volonté de rassembler des fragments pour des logiques qui nous échappent en partie, mais qui sont des logiques de bri volontaire et de dépôt volontaire de ces fragments métalliques, qui sont pourtant recyclables.
L'épée est une sorte de prolongement désormais du bras de l'homme.
Oui, c'est comme ça qu'on l'interprète. La naissance de l'épée, c'est un objet très particulier. C'est le premier objet que l'on voit en métal qui soit un objet dont l'usage fonctionnel, outre son volet, on va dire, symbolique et économique, c'est aussi un objet de prestige, soit un objet qui est fait pour attaquer, pour blesser, pour tuer. Et jusqu'alors, on pouvait, avec des pointes de flèche par exemple, se dire, ben oui, ça peut servir effectivement à attaquer autrui, mais ça peut aussi servir pour la chasse. On ne va pas à la chasse avec une épée.
C'est l'arc essentiellement qui tuait dans les violences interpersonnelles.
Absolument. Et là, on a un objet avec l'invention de l'épée qui ne laisse pas d'ambiguïté sur son caractère d'arme de guerre spécifique.
Alors, il y a aussi le bouclier, il y a la lance, même le fourreau et le casque que vous évoquez tout à l'heure.
Oui, on a une panoplie, en fait.
Tout cela renseigne sur la guerre, notre guerre, votre guerre de l'âge du bronze.
Alors, la guerre de l'âge du bronze, oui, elle voit le développement d'une panoplie extrêmement complète d'armes qui sont à la fois des armes offensives et des armes défensives, en parallèle d'un développement de la métallurgie qui va développer tout un savoir-faire en Occident du martelage, qui va permettre d'obtenir des tôles fines qui sont nécessaires pour la fabrication des casques, qui sont nécessaires pour la fabrication des cuirasses. Et donc, on a une expertise métallurgique au service de cet armement guerrier.
Dans ce sujet grave, je vais introduire, si vous le permettez, Anne Loerf, je vais introduire un peu de légèreté en vous proposant cette chanson de Jean-Claude Anouk qui s'appelle « La guerre de Troie ». Qui remonte à 1968, car au fond, dans la mémoire littéraire collective, beaucoup d'éléments de notre période, de votre période, cette période de l'âge du bronze, à quoi nous consacrons notre émission ce matin, on la connaît mieux par la guerre de Troie, qui est à l'extrême pointe, finalement, de l'âge du bronze.
La guerre de Troie, le récit de la guerre de Troie, fait partie effectivement de la période de l'âge du bronze, et c'est le premier récit de guerre, alors mythique, mais que l'on a décrit dans des sources antiques, ce qui n'est pas le cas pour une partie de l'Europe qui n'a pas adopté l'écriture à cette époque.
Eh bien, voici la chanson.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Quand j'étais au lycée, j'aimais l'antiquité, le grec et le latin. Tout ça me plaisait bien, mais si j'étais helléniste, j'étais aussi pacifiste. Mais j'ai perdu la foi à cause de la guerre de Troie. Elle a eu lieu la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Elle a eu lieu la guerre, la guerre de Troie. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depuis j'ai étudié des trucs sans intérêt. J'ai compris que dans la vie, n'était pas jolie, mais alors j'ai rencontré une jolie fille à aimer. J'oubliais dans ses bras tout de la guerre de Troie. Elle a eu lieu la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Elle a eu lieu la guerre, la guerre, la guerre de Troie. 4, 5, 6, 7, 8, 9. La suite de l'histoire est bien facile à croire. Un copain qui me passait m'a pris celle que j'aimais. Un cocu en plus sans moins, ça fait quoi, ça fait rien. Mieux vaut parler, je crois, de la vieille guerre de Troie. Elle a eu lieu la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Elle a eu lieu la guerre, la guerre, la guerre de Troie. Puis ce fut le service, celui qui n'en est pas un. La salle de police, le clairon du matin. Je ne vous raconterai pas ce que furent mes combats. C'est plus court et plus droit parler de la guerre de Troie. Elle a eu lieu la guerre, la guerre, la guerre, la guerre. Elle a eu lieu la guerre, la guerre, la guerre de Troie. depuis l'Antiquité. On a bien évolué de l'épée au napalm, d'un cinq au Vietnam. Je préfère m'arrêter là car ce n'est pas, je crois, la dernière guerre qu'on fera depuis la guerre de Troie. Il y en a eu des guerres, des guerres, des guerres, des guerres. Il y en a eu des guerres. On en a compté 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beaucoup plus que ça.
Vous ne m'en voulez pas, Anne Leherf, de vous avoir proposé cette chanson qui nous conduit un peu loin de notre sujet très scientifique consacré à la période de l'âge du bronze, le jour où l'homme inventa la guerre.
C'est effectivement une chanson un petit peu légère qui nous fait partir de l'épée jusqu'au napalm de l'époque de la chanson et qui comptabilise les guerres qui, hélas, ne semblent pas vouloir s'arrêter.
Voyons la manière dont, très concrètement, la guerre telle qu'on peut l'apercevoir pour cette période, comment elle se déroule. Et d'abord, la figure du combattant que vous restituez bien en dépit de la difficulté de la distance et de la rareté des sources.
Alors la figure du combattant, on est obligé de la deviner derrière la documentation archéologique, qui est une documentation compliquée parce qu'en fait, elle est encombrée d'armes, ces épées, cet équipement guerrier, et en même temps, il nous manque quand même beaucoup d'éléments. On n'a effectivement pas le récit, et puis on n'a pas le guerrier en train de combattre. On a peu de figuration. Un petit peu en Espagne, un petit peu en Scandinavie. Mais la figure du guerrier, il faut la deviner, il faut essayer de l'imaginer.
Car il existe, vous dites quelque part, que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence.
Tout à fait. C'est une phrase importante dans les travaux en cours. Mais donc, il existe, hein, il existe. Il y a des épées. Il a donc dû y avoir des individus qui ont su les manipuler. Et ce système, finalement, de guerre, c'est un système comprenant plusieurs acteurs. Il y a le bronzier qui fabrique cette épée et qui fabrique les armes. Il y a les marchands qui vont permettre l'approvisionnement en matières premières nécessaires à la fabrication des armes. Et puis il y a l'utilisateur, ce guerrier qui apprend à manipuler l'épée, parce que sur le champ de bataille, il est préférable de savoir manier les armes de manière correcte. Et lui-même appartient à une société complexe, hiérarchisée, dans laquelle il faut concevoir un système politique qui porte cette réalité complexe, économique, sociétale, guerrière, à l'âge du bronze.
Il n'y a aucun doute à vos yeux qu'il y a une aristocratie guerrière, forcément. Peut-être que le cheval, d'ailleurs, incarne cela.
Il y a une aristocratie guerrière, très certainement, à l'âge du bronze. Le cheval accompagne le guerrier de l'âge du bronze. Ça aussi, on en a la preuve. On a différentes... on a des morts de chevaux, par exemple, dans la documentation archéologique. On est sûr, d'après les armes que l'on voit, qu'effectivement, il doit y avoir une aristocratie guerrière. Après, le détail de ces armées, le détail de tous les acteurs qu'il peut y avoir sur le champ de bataille, c'est assez difficile à partir de la documentation que nous avons, qui est à la fois très nombreuse, très encombrante, d'une certaine manière, pour l'âge du bronze, avec cet armement très important. Et en même temps, il nous manque certainement de nombreuses données. Sur le site de Tolenze, par exemple,
on a... Que vous avez tout à l'heure, au début de notre conversation.
Tout à fait. On a des épées. Certaines ont dû être récupérées parce qu'il y a une sous-représentation des épées sur le champ de bataille.
C'est assez naturel que les vainqueurs se soient saisis de l'arme des vaincus.
Absolument. Et des épées en particulier. Et on a une sur-représentation des pointes de flèches. Est-ce qu'on a différentes catégories de guerriers entre l'aristocrate qui le porteur d'épée et puis d'autres combattants? Est-ce qu'on a des esclaves?
Mystère.
Ça, ce niveau-là d'analyse... La seule archéologie a beaucoup de mal quand même à l'atteindre.
Mais vous nous dites qu'il y a une certitude, c'est que les femmes n'étaient guère combattantes. C'est une question que vous êtes posée.
C'est une question qu'on se pose, parce qu'aujourd'hui, la question de savoir où est la place des femmes est quand même une question essentielle. Et d'ailleurs, sur la guerre, les femmes sont très peu nombreuses aujourd'hui.
Chaque génération pose de nouvelles questions, et c'est bien ainsi.
Tout à fait. La science est vivante. Ce que l'on a comme documentation pour l'âge du bronze nous invite à voir des sociétés non seulement hiérarchisées, mais au sein desquelles la domination masculine s'affirme très fortement. Et les femmes, si certaines ont pu avoir une place dans la société, dans l'aristocratie, elles ne sont pas représentées dans tout ce que l'on peut avoir en lien avec l'armement et a priori donc le combat.
On est avant le temps des Amazones.
On n'a pas d'Amazones, en tout cas en Europe occidentale, à l'âge du bronze. Alors on peut toujours les imaginer, puisque effectivement l'absence ne signifie pas qu'il n'y a pas eu, mais en tout cas l'archéologue, s'il s'en tient à ces données, n'a pas cette confirmation.
On a des représentations néanmoins figurées des combattants sur les stèles, en particulier les statues menhirs, les menhirs.
On a quelques statues menhirs. En Occident, on en a également. On a quelques statues menhirs du côté des Alpes, en Espagne, et puis on a les pictogrammes en Scandinavie qui représentent des guerriers.
La Scandinavie offre des dessins.
La Scandinavie offre des dessins qui ne sont pas des photographies. Il faut les prendre comme des représentations symbolique. Dans lesquelles il y a une part de symbolique. Et d'ailleurs, quand on regarde, on voit des bateaux avec des personnages qui sont dansants. Et on a effectivement la figure du guerrier. On a des guerriers ictifaliques avec l'épée au côté.
Chacun comprendra, j'imagine, ictifalique. Je n'ai pas besoin de mettre une note en bas de page.
Je ne crois pas. Et là, clairement, la figure masculine, effectivement, s'impose et elle est associée à la puissance et à une exaltation de la virilité. Pour les stèles, on a aussi en Espagne des stèles où on a des représentations de guerriers avec des silhouettes et avec l'ensemble de l'équipement guerrier, l'épée, le bouclier, le casque. Et donc on voit une panoplie complète, ce qui est évidemment tout à fait intéressant.
C'est aussi en Scandinavie qu'on peut percevoir, selon vous, un environnement sonore pour cette guerre que vous restituez. Ce n'est pas sans importance. C'est pas seulement le visuel, il y a aussi le sonore. Parlez-nous de ces lourdes, de ces trompettes de guerre qui sont restituées aujourd'hui par des amateurs qui ont le goût de restituer l'environnement sonore de ce temps-là et qui peut-être y parviennent.
L'âge du bronze et les métallurgies complexes font naître les instruments de musique métallique, même si la musique existe précédemment, et donc des trompettes de guerre que l'on voit justement sur ces pictogrammes avec les bateaux. Et effectivement, par l'archéologie expérimentale, certains ont reproduit ces trompettes et on a donc une idée du son qui est quand même immatériel complètement et que l'on imagine assez bien sur le champ de bataille comme étant faisant partie du combat, d'annoncer le combat, le début, la fin, en tout cas de prendre place dans la guerre elle-même.
Donc vous ne refusez pas ces restitutions contemporaines dont voici un exemple. Vous sentez transporté à l'ERF dans cette période-là grâce à cette musique?
En tout cas, c'est évocateur.
C'est pas incongru.
Non, c'est pas incongru. Et on a aujourd'hui ces cornes, ces trompettes de guerre pour l'âge du bronze. Pour la période suivante, on a les carnix. Et donc, la musique continue à avoir une place, évidemment, dans la guerre, même pour des époques plus récentes. Donc, c'est tout à fait intéressant, oui, de pouvoir se projeter à l'âge du bronze.
Nous parlions des chevaux. Est-ce que l'on sait si on se battait parfois sur des chars?
Pour ce qui est de l'Europe occidentale, il semble qu'il n'y ait pas de chars. En revanche, il y a d'autres espaces avec des chars. Sur la grande représentation de la bataille de Kadesh de 1274 avant notre ère, par exemple.
Entre Ramsès II et les souverains hittites.
Tout à fait. Là, il y a des représentations de chars. Donc il y a des formes de combat qui ne sont pas les mêmes partout dans les différentes régions du monde.
Là, on sort un peu de l'Occident sur lequel nous avons largement concentré notre attention ce matin.
Tout à fait. On est encore au bord de la Méditerranée. On n'est pas non plus en Chine, où pourtant la métallurgie du bronze se développe également.
Est-ce qu'on peut percevoir la dimension sacrée de la guerre, cette guerre de l'âge du bronze dont nous parlons ce matin?
Je crois que la question de la guerre est toujours accompagnée de rituels qui peuvent être extrêmement variés. Et il n'y a aucune raison que les guerres de l'âge du bronze en soient exemptes. Donc, les guerres de l'âge du bronze ont elles aussi comporté des rituels hein, dont la nature peut varier d'une guerre à l'autre, qui peuvent être qualifiés de cultuels, c'est-à-dire dans le sens religieux, qui peuvent avoir lieu avant le combat, après, en revenant, qui peuvent inclure des prières à des divinités qui sont celles de l'époque. Et pour l'âge du bronze, on relie ces questions de rituels à plusieurs actes qui ont une dimension symbolique. Les objets métalliques volontairement déposés entiers ou fragmentés.
Ce qui fait notre affaire d'archéologue.
Absolument, puisqu'on a des dépôts métalliques et qu'on en a des milliers à travers l'Europe, ce qui permet d'avoir une documentation tout à fait intéressante. Et c'est évident que ça fait partie d'un rituel. Et comme enfin, les fragments d'épée, par exemple, ils sont quand même assez abondants, donc on a tendance à y voir quelque chose qui pourrait avoir affaire avec la guerre. Et puis on a aussi une dimension qui est une dimension en lien avec les astres, le voyage, les divinités que l'on peut voir sur ces parois dans Scandinavie et que l'on peut avoir aussi, par exemple, avec des objets. Je pense en particulier au dépôt de Nebra, qui est en Allemagne et qui est sur la couverture du Que sais-je, où on a un disque qui est la première représentation de la voûte céleste qu'on en connaisse, 1500 avant notre ère à peu près, qui a été déposée volontairement avec deux épées, avec de l'outillage. Et là aussi, on est dans un acte cultuel, rituel, où l'on voit associer la guerre, le ciel. Et donc, on est dans un acte effectivement religieux dans lequel la guerre prend une place. Ce qui est dommage à Nebra, c'est que ce sont des détectoristes et des pillards qui l'ont découvert et non pas des archéologues, ce qui nous prive de la moitié des informations au moins et de tout le contexte archéologique qui allait avec.
Je suis frappé en vous lisant de la dimension spatiale de votre réflexion. Autrement dit, on a beaucoup bougé pendant cette période. On a bougé pour l'évolution des peuplements et surtout pour la circulation des biens et notamment des armements, dans cette course à l'armement que vous décrivez.
On bouge parce que, en fait, pour pouvoir produire ces armes, il faut des matériaux qui sont dans différentes régions. C'est une histoire du commerce, c'est une histoire économique, celle de l'âge du bronze, d'un monde, alors c'est à la mode, hein, mais connecté, interconnecté, où effectivement, il y a un approvisionnement de l'étain dans le sud de l'Angleterre, du cuivre dans un endroit. Et pour que ça arrive dans le creuset du bronzier, il faut bien qu'il y ait des déplacements sur des centaines, voire des milliers de kilomètres.
Donc cette guerre n'est pas seulement un ressort pour le développement technologique, mais aussi pour la circulation des biens et des personnes.
Absolument. C'est pour ça qu'on envisage l'âge du bronze comme un temps dans lequel la guerre est portée par la société dans son ensemble, y compris le volet économique, sociétal et politique, et pas simplement une histoire de creuset, si j'ose dire.
C'est pour ça qu'on est passé, selon vous, d'une période où il y avait évidemment de la violence, on peut le rappeler, interpersonnelle, des groupes à groupes, mais cette idée de guerre entre des sociétés qui s'opposaient. Parler de la guerre, c'est aussi parler de la paix. Est-ce qu'on peut apercevoir ce qu'était la paix dans ces temps reculés de l'âge du bronze?
Alors, on aimerait bien pouvoir apercevoir la paix. D'un point de vue archéologique, c'est très compliqué d'apercevoir la paix. Parce qu'on est ça laisse moins de traces, hélas. En même temps, c'est un paradoxe, c'est-à-dire que on sait qu'il y a eu de la guerre, et en même temps, parce que justement, on est dans des sociétés qui ont besoin de commercer, il faut quand même des routes qui, à certains moments, soient sûres. Donc, la paix a forcément été aussi à l'ordre du jour de cet âge du bronze. On l'imagine comme étant présente au début, au moins, de l'âge du bronze, au moment de ses développements économiques. On a l'impression de voir des moments de tension très forts entre 1300, 1200 avant notre ère. Et puis, il y a des temporalités que l'on n'arrive pas à attraper. On sait qu'une guerre de 4 ou 5 ans, c'est très long. On en a des récits. Et nous, notre âge du bronze, il fait 1500 ans. Et donc, dans ces 1500 ans, il y a forcément eu et des temps de paix et des temps de guerre.
On a tendance à oublier cette durée, mais si on la rapporte à notre propre période 2000 dernières années, on est assez proche.
On est assez proche.
Donc c'est très long.
C'est très long. Et une guerre de 5 ans, c'est très long. Alors 1500 ans, forcément, il y a eu des moments de paix.
Nous avons, c'était assez clair, je crois, parlé de l'âge du bronze dans l'Occident. Et si on jette un regard planétaire avec vous, Anne Lerf, qu'est-ce qu'on peut dire?
Les métallurgies complexes du bronze n'ont pas été adoptées partout dans le monde et n'ont pas été adoptées aux mêmes dates. Donc c'est un choix de société. Et ce qui est intéressant, quand on essaie d'avoir une vision un petit peu large, c'est de voir que, malgré le fait que ce soit un point commun, finalement, entre ces différentes sociétés bronzières, chacune d'entre elles a adopté à la fois des technologies particulières, qui sont pas forcément les mêmes. Ce qu'on voit, par exemple, avec le développement du martelage en Europe occidentale, n'a pas d'équivalent en Chine.
Le martelage, c'est quoi ?
La déformation plastique, en fait, d'une tôle pour fabriquer des casques ou des cuirasses, ou de la vaisselle. En Chine, par exemple, on n'a pas de travail de tôle fine. En revanche, il y a une expertise extraordinaire pour fabriquer des vases ou des tambours qu'on n'a pas du tout en Occident. Donc on a des choix technologiques et puis on a aussi des choix de société qui sont pas forcément les mêmes, avec une grande différence entre des sociétés qui ont accompagné le développement de ces métallurgies complexes, d'un développement d'un État centralisé, qui s'accompagne du choix de l'écriture, et puis de sociétés comme en Occident, où on a d'autres formes politiques qui contrôlent aussi les circuits et les artisans, mais qui ne sont pas centralisées comme les cités-États, et qui ne sont pas des sociétés de l'écrit. Et ce qui nous amène, finalement, quand on regarde ça, à aussi voir une photographie sur ce qu'ensuite on a imaginé comme étant les grandes civilisations, c'est-à-dire celles de l'écrit, et celles qui n'ont pas eu droit à ce qualificatif, alors que finalement, elles ont des points communs tout à fait intéressants, et que l'on voit quand on les aborde sous l'angle, justement, de ces métallurgies complexes et de tout ce qui accompagne ces développements technologiques.
Et cette diversité, par exemple, en face de l'écriture, en contraste avec ce que vous nous dites sur sur les armes et la métallurgie, c'est une des choses les plus difficiles à expliquer qui soit. Pourquoi est-ce que certaines sociétés, tout en étant des sociétés de l'âge du bronze, ont connu l'écriture ? Est-ce que c'est un lien ?
C'est un lien, la question de l'adoption de l'écriture, en fait, c'est en lien avec un choix politique qui dépasse, en fait, la question de la métallurgie. C'est-à-dire que ce qui les relie, c'est effectivement une adoption de la métallurgie. En revanche, ce qui les différencie, c'est d'avoir adopté des modèles politiques, des modèles qui vont développer la ville ou pas la ville, et dans une démographie partout qui est très dynamique. Et, en fait, l'écriture est une des réponses que certaines sociétés ont adoptées et pas d'autres.
Cette démographie, c'est un point que nous n'avons pas souligné, est évidemment très, très importante dans le sujet que nous avons traité.
Alors le pic démographique, en fait, on voit un changement dans la démographie à l'échelle du monde, avec le néolithique et la naissance du monde agricole. Et l'âge du bronze amplifie très largement cette démographie, j'allais dire galopante.
Est-ce que l'on pourrait penser que peut-être cela a été un ressort du développement de la guerre ?
L'essor démographique, oui, peut être un élément qui explique certains aspects du développement de la guerre, oui.
Nous laisserons donc la question ouverte comme d'autres, ce qui ne m'empêche pas de vous remercier très vivement pour avoir jeté de si belles lumières sur cette période lointaine de l'âge du bronze. Vous allez d'ailleurs faire profiter un public particulier de votre réflexion planétaire dans une conférence que vous allez donner au Musée de l'Homme le 26 janvier 2026, je tiens à le signaler. Vous appellerez ça une histoire universelle de l'âge du bronze. Vous avez publié, je le rappelais, chemin faisant, que sais-je, tout récemment, l'âge du bronze. J'y renvoie, c'est vraiment, c'est à la fois très, très précis et très éclairant pour le sujet que nous avons évoqué. C'est un rebond par rapport à un livre qui a été très remarqué, peut-être un peu discuté, parce que le titre était volontairement bif. « Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre », c'était paru chez Belin en 2018. J'avais reçu, voici déjà longtemps, Jean Guilaine, qui avait publié un livre avec Jean Zamit, « Le sentier de la guerre, visage de la violence préhistorique, la violence », qui était paru au Seuil en 2001. Deux expositions qui sont ouvertes actuellement et qui concernent cette période, celle de Quinçon dans les gorges du Verdon, écho du bronze jusqu'en décembre 2026, et puis l'exposition Les Maîtres du Feu jusqu'en mars prochain au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Vous avez visité ces expositions ?
Oui, tout à fait.
Vous encouragez à y aller?
Je encourage évidemment les auditrices et les auditeurs à profiter de ces deux belles expositions.
J'ai noté aussi que vous avez publié plus récemment un petit livre, petit mais important, « Mettre au monde le patrimoine, l'archéologie en acte » aux éditions Le Pommier, voici 2 ou 3 ans. Vous évoquez là toute la question des relations entre les archéologues et les archéologues amateurs. C'est d'ailleurs peut-être une définition encore trop obligeante que de les désigner ainsi. Vous avez publié dans Le Monde une protestation contre eux qui a attiré l'attention.
Oui, je pense que l'archéologie souffre, et en particulier l'âge du bronze, justement si riche en métal, souffre des actes de pillage et de la détection qui ne peut pas être un loisir, puisque l'archéologie se construit sur une étude de la documentation matérielle qui est faite d'objets, mais qui doit être appréhendée, envisagée dans son contexte, dans sa matrice, qui est porteuse de nombreuses informations.
D'ailleurs, la loi interdit les recherches sans autorisation avec des détecteurs de matériaux. Mais il y a eu cet épisode que vous dénoncez de la chouette d'or.
Ben oui, parce qu'en fait, si on lâche des gens avec des détecteurs de métaux, ils sont très nombreux en France, les détecteurs. Ils sont, les estiment, entre 300 et 400 000.
La chouette d'or avait été enterrée quelque part.
Et la chouette d'or avait été enterrée quelque part. Donc, vous imaginez que les gens vont pouvoir effectivement se dire qu'ils vont avoir un plaisir à aller essayer de trouver un trésor. Et pour les archéologues, c'est absolument désastreux.
Le Puy du Fou aussi s'est mêlé de ce genre d'entreprise.
Alors, pour la nouvelle édition, le Puy du Fou s'est effectivement lancé dans l'aventure. Ce qui désespère les archéologues.
Je rappelle enfin que nous avions publié, voici déjà quelque temps, en 2008, aux éditions du Nouveau Monde, un recueil d'émissions de Concordance des temps qui s'intitulait « La guerre dans tous ses états ». Quand nous rééditerons cet ouvrage, un jour, nous ajouterons la conversation d'aujourd'hui dont je vous sais vraiment gré, Anne Le Herf. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, vous le savez, réécouter et podcaster cette émission.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.
Tandis que je vous propose en fond sonore les Beatles dans leur chanson All You Need Is Love, pour introduire un peu d'amour dans ce monde de brut, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard. L'appui de l'une et de l'autre sont pour moi, de semaine en semaine, sans prix. Avec Romain Luquins à la prise de son, avec Keating Wang à la discothèque, et avec Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
Nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.